demander à un enfant qui tu préfères, de papa ou de maman. Il n'y a rien de plus éviscérant, de plus dégueulasse, puisque justement c'est tout le problème. Alors, il ne peut pas le dire. Et il ne peut pas le dire. Il y arrivera à le dire, mais il veut le dire à sa manière. À lui, c'est seulement s'il invente une solution et qu'il la donne l'impression, il se donne l'impression de la redécouvrir en l'écrivant une seconde fois. C'est à ce moment-là que ça va être résolutoire. Bon, alors voilà. Donc c'est des affaires équivoques entre l'écriture. Dans l'écriture, il y a des histoires comme ça, entre des déplacements. Bon, j'ai des exemples, hein. J'ai des jeux d'écriture. Vous voulez que je vous en donne un ? On a le temps, là. Je vais vous, pour les vacances, puisque je reviens qu'en juin, je vais vous en donner un. Regardez, vous avez un papier devant vous, vous n'avez qu'à écrire dessus un nombre de trois chiffres. Regardez, écrivez un nombre de trois chiffres. Vous savez, un truc comme, je ne sais pas moi, 125, vous écrivez un nombre de trois chiffres, d'accord ? Eh bien, réécrivez-le sur la même ligne juste après, votre nombre de trois chiffres. Et moi, je vais le faire aussi, parce que ça va vous faire ce que je vais vous demander de faire une division, trois divisions. Regardez la magie. 1, j'écris 125, je réécris 125 après. D'accord ? Et je vous propose de diviser ça par 7. Est-ce que vous savez diviser un nombre par 7 ? Vous vous souvenez ? C'est chiant. Hein ? Alors, il y va une fois dans 12, ça fait 5. Dans 55, il y en a un paquet de 7, mais il n'y en a pas 10. Hein. Bon. Alors, dans ma table de 7.
7
fois 7, 49. 7 fois 7, hein, et pas 8. Et non. Pas 8, donc 7. 7 fois 7, 49. 49, il reste 6. 61, là, il va y aller 8 fois.
8 fois.
Hein, ça va y aller 8 fois. 8 fois 7, 56. Donc 5. 52, 7 fois 7, 49, il reste 3. 35, ah, merveille, 5. Ça tombe juste. Vous avez vu, je vous dis, vous prenez trois chiffres, vous les reprenez à côté, vous divisez par 7 et ça tombe juste.
Ça marche à tous les coups.
Comment ?
À tous les coups.
Ah, moi, je prétends que ça marche à tous les coups. Il va falloir comprendre pourquoi.
Voilà.
Alors, attendez, regardez, avec le 7, ça marche. Mais ce que vous avez, le résultat, là, divisez-le par 11. Et puis c'est d'autant plus intriguant que c'est des nombres premiers. Hein. Et on sait bien que les nombres premiers, c'est un mystère. Il y a une magie. Divisez ça par 11. 11. Alors, dans 17, il va une fois. Il reste 6. En 68, il va 6 fois. Il reste 2. En 27, il va 2 fois. Il va rester 5. Et dans 55, ça y va pile 5 fois. Merde! C'est un nombre qui est aussi divisible par 11. Et qu'est-ce qui reste ? 1625. Dans mon exemple, celui que vous avez pris, prenez n'importe lequel, vous allez voir, ça marche.
Ouais.
Ça marche, non ?
Ouais.
Si vous vous donnez la peine, alors bien sûr, vous allez me dire, ah, aujourd'hui, avec une calculatrice, on fait ça très vite. Bah, faites-le avec une calculatrice si vous voulez, ça ne change rien. Le computationnel, moi, j'ai rien contre. Vous savez, moi, j'utilise aussi des calculatrices. C'est vrai que c'est mieux de le faire à la main parce que ça entretient quoi l'activité cérébrale, puisque Dehaene a montré là, le cognitivisme, que quand on apprend, si on s'exerce à lire, on peut surmonter des lésions cérébrales, les neurones, ça s'améliore. J'en suis certain, moi. Je suis certain que, comme en tant que fainéant, je suis certain que le fait de faire le calcul, effectivement, c'est une bonne discipline. Hein. Les mathématiciens sont toujours des fainéants. C'est toujours des. Le mathématicien, c'est quelqu'un qui dit si c'est compliqué, on doit pouvoir faire plus simple. Si vous n'avez pas cette idée de la simplicité, vous ne faites pas de mathématiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui font des mathématiques, parce que tout le monde préfère les trucs compliqués. Moi, je vous dis, la psychanalyse, je ne dis pas que c'est. Je dis que c'est simple, et plus c'est simple, plus c'est difficile. C'est ça qui est terrible. Bon, alors maintenant, ça, vous allez le diviser par 13. Si on divise par 13, c'est encore un premier. Il y va une fois dans 16, ça fait que je vais descendre à un 3. Dans 32, il y va deux fois. 2 fois 13, ça fait 26. Il me reste 6, non ?
Si.
Et 65 divisé par 13, vous savez combien il y en a ? Il y en a 5. Regardez. Qu'est-ce que je retrouve ? Le chiffre dont je suis parti au début. Pas mal, non ? Alors, qui donne une explication ? Qui donne une explication ? Hein ? C'est joli, non ? Vous voyez, avec ça, je pourrais gagner de l'argent aussi. Qu'est-ce que je passe ? Je perds mon temps
à la musicale.
Au musical, là. Et j'ai fait ça à Delinda, j'ai expliqué ça à Delinda déjà en 80, au moment où Lacan était en train de mourir. Derrière mon dos, il y avait Éric Laurent qui se foutait de ma gueule et qui faisait ouais, il faisait rire tout le monde pendant que j'étais en train d'expliquer ça. Ça les intéressait déjà pas. Moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que vous verrez, il n'y a aucun mystère. Le seul truc qui peut vous tromper un moment qui est illusoire, c'est le fait que ce soit trois nombres premiers, 7, 11 et 13. Il se trouve que c'est comme ça. Alors, je ne vais pas vous dire la solution, je vais vous mettre sur la piste de la solution. Vous voulez que je vous donne une indication pour trouver la solution ? Il faut expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche avec n'importe quel. Mais je peux vous donner la clé, mais sans vous dire comment l'employer. Vous verrez vous-même si vous avez, avec cette clé, vous arrivez à répondre, à vous faire une politique de ce tour de passe-passe. La clé, c'est quoi ? Ben, la clé, c'est la chose suivante. Ça se démontrera très simplement à partir du moment où vous faites la remarque suivante. Que 7 multiplié par 11, c'est vraiment un coup de peau. Enfin, un coup de peau, c'est un coup de peau que ce soit le nombre premier. Mais enfin, bon, 7 multiplié par 11 multiplié par 13, vous savez combien ça fait ?
301.
Non, 1001. 1001. Ça fait 1001. Vérifiez. Eh oui, d'où ce que j'ai fait au début, de vous dire, prenez un nombre de 3 chiffres, j'ai pas dit un nombre de 2 chiffres, parce qu'à ce moment-là, il faudrait que je prenne les diviseurs de 101. Puisque j'ai le nombre de 3 chiffres, je vous dis, mettez-le l'un à la suite de l'autre. Vous déplacez quoi ? Vous prenez un chiffre, et puis vous le déplacez de 3 places, de 3 positions, et vous le remettez derrière, vous voyez ? Quand vous faites de 125, quand vous faites 125 suivi de 125, ce que vous avez fait quand je vous ai dit de faire ça comme un geste, c'est une multiplication par 1001. Malin. Donc vous voyez, comme quoi j'ai mis le lapin dans le chapeau. Le truc, c'est que 1001, c'est pas un nombre premier, ça se décompose en 7, 11 et 13. Vous pouvez chercher à voir si on peut faire ça avec 101, avec des nombres de 2 chiffres, et si on peut faire ça avec 10001, ce sera avec des nombres de 4 chiffres. Et il faudrait qu'ils se décomposent. Bon, en gros, qu'est-ce que je vous ai fait faire ? Je vous ai fait diviser ça par 1001. Claro. Bon, ça va, vous voyez ? C'est ça qui est chouette, c'est que c'est pour ça que les anglo-américains ils s'intéressent aux interférences, parce que on a l'impression que la dimension, ça fait quelque chose, les deux yeux comme ça fait de la dimension, on voit le relief. Vous connaissez les façons de faire des films en relief avec des lunettes vertes et rouges, des choses comme ça. Donc on a l'impression que s'il y a de l'interférence, il y a quelque chose de la troisième dimension. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème seulement physiologique et physique. L'interférence. C'est la question du phallus, c'est la question de la dimension 3. La dimension 3, pourquoi la dimension 3 a-t-elle dans l'image du corps une telle importance ? Voilà la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que quand un objet est plat, il est identique à son image miroir. Et si un objet n'est pas plat, s'il a une troisième dimension, il n'est plus identique. Il y a quelque chose qui est inversé, on ne sait pas quoi. Donc il ne faut pas, vous voyez, on peut faire des remarques physiques, computationnelles, arithmétiques, gestaltistes. Voilà, ce que ne comprennent pas les behavioristes, et les gestaltistes, les jungiens, les ceci, les computationnels, les cognitivistes. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver contre le cognitivisme. Millet, il en fait une maladie. Il les appelle les quantificateurs. C'est parce qu'il a du mal avec les quantificateurs. Les quantificateurs, c'est des lettres que Lacan utilise. Il n'arrive pas à les lire, le pauvre garçon. Ça, c'est deux canteurs classiques, et maintenant, il en fabrique deux autres. Comme ça, avec une barre au-dessus. Bon, les quantificateurs, c'est ça. Mais tous ces gens qui essayent de réduire les éthologistes, hein, genre Cyrulnik, qui fait la résilience, tous ces gens, ils n'ont pas tort dans leurs expériences, c'est toujours très intéressant. Regardez Lacan cite les physiologues à la fin de propos sur la causalité psychique. La mutation des criquets pèlerins et des criquets grégaires, la mutation des pigeons. Alors, et puis regardez Benveniste qui étudie le code des animaux. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas faire du confusionnisme et pas dire que c'est du langage. Le langage, c'est plus spécifique, c'est pas un code. Il suffit pas de faire du sémaphore pour être dans le langage. Même si on fait avec le sémaphore des lettres. Parce qu'on peut faire autre chose que de gesticulation avec des drapeaux. Ou avec des morceaux de bois qui bougent. Donc le problème, ce que ne comprennent pas tous ces gens, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que l'écriture. Parce que l'écriture, vous voyez, ça fait des trucs comme ça. Ça, c'est de l'écriture. Alors bien sûr, dans ce cas-là, on a l'impression qu'on a tout compris parce qu'on a trouvé le truc. Mais l'écriture, ça fait des choses comme ça. Ça fait des choses qui sont à la fois équivoques et qui introduisent cette dimension 3 qui se trouve entre le fait de dire, la parole qui échappe toujours au sujet, et le fait de l'image. Vous voyez, comment le sujet rentre dans le langage? C'est par une équivoque, puisque son image, s'il est plat, si c'est ce que vous dit Lacan dans le séminaire, il dit à son auditoire, il dit, vous pensez plat. Voilà, ça veut tout dire, pourquoi vous pensez plat? En pensant plat, ben, vous reconnaissez dans un miroir. Pourquoi il peut dire ça? Parce que vous vous reconnaissez dans un miroir. Si vous ne pensiez pas plat, ce n'est même pas une question de symétrie des deux moitiés du visage. C'est le fait que si vous voyez que vous avez un nez au milieu du visage et qu'il est en avant, vous ne pouvez plus superposer votre visage avec avec son image dans le miroir en tant que pas plat. Vous voyez? Parce que le pouce, ça marche encore. Celui-là, ça, la dimension sagittale là, du phallus en pointe qui est en avant, sagittal au miroir. Si je les superpose, ces deux-là, le pouce et celui-là, ben, il y a les deux autres qui disent « zut ». Il y a quelque chose qui s'inverse dans l'image miroir. C'est ce que j'ai cherché à expliquer géométriquement et algébriquement dans un article qui s'appelle « Afin de préciser le narcissisme ». Et là, on découvre qu'il y a quelque chose de vraiment aliénant, parce qu'on ne peut pas dire, c'est pas l'autorité du père comme ça, c'est la fonction paternelle, parce qu'il y a quelque chose de réel. Impossible de dire qu'est-ce qui est inversé dans l'image miroir d'un objet de dimension 3. Donc c'est des concours comme ça, c'est des rencontres entre. Pourquoi dire que ça, c'est la dimension de la droite infinie, comme le dit Lacan, du trauma, hein? Parce que ça fait un effet bœuf. Voilà la réponse. Je veux dire, c'est comme dans Molière et l'amour, vous voyez, si on peut dire n'importe quoi, c'est du bavardage. Mais à quel moment c'est plus du bavardage? À quel moment ça se noue? Il y a le concours d'un certain nombre de dimensions, imaginaires, symboliques, réelles, qui se nouent, et puis ça fait que, justement, il y a des choses comme ça qui font trauma, qui font rentrer dans une autre. Alors vous voyez, dans le langage, il me voue à la métaphore permanente. C'est rentrer dans une voie, dans un autre lieu, dans un autre topon, dans une autre dimension. Mais c'est sûr que l'interférence mécanique qui intéresse les psychologues anglo-saxons, c'est pas inintéressant, le fait de faire de la dimension avec un laser ou des choses comme ça. Mais c'est le fait que ça se surajoute. Ça se compose, ça s'organise d'une manière qui est absolument passionnante, puisque ça fait que nous sommes des semblants, nous sommes des ombres, mais nous pouvons croire à notre image, je ne sais pas, mais on peut croire, bon, et puis pas seulement croire, c'est-à-dire qu'on s'identifie. et que ça constitue momentanément comme ça, alors un lieu de représentation sans doute, mais qui est tenu, et c'est ça, c'est cette tenue qui m'intéresse. Bon. Alors je vais défaire ce nœud là rapidement pour finir, pour vous montrer que c'est derrière quelque chose comme ça que je suis en train de suivre. Vous voyez, ben, je vais faire comme la dernière fois, je vous laisse défaire ça. Je vais vous montrer comment ça se défait pour le nœud de trèfle. Puisque le nœud de trèfle, c'est ce que j'ai dit dans le Borroméen. Je vais vous le faire simple. Est-ce que c'est par paresse ? Vous jugerez vous-même. Voilà. Regardez, les trois ronds du Borroméen. J'ai défait mon triskel comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je le compose avec un autre Borroméen. Mais lui dans lequel j'ai pas défait. J'ai pas défait les ronds. J'ai pas mis en continuité les ronds. Voilà. Le troisième, il va venir ici. Celui-là passe là. De gagner un peu de terrain. Voilà. Bon. J'ai recomposé les trois ronds borroméens. Attendez, je vais déplacer un peu celui-là pour que vous voyez bien les triskels plus équilibrés. Voilà. Bon. Et bien, le coup de tout à l'heure, je peux défaire les deux triskels qui sont là. Les deux mailles, pardon, qui sont là. Je peux le défaire. Donc, j'obtiens ça. Ça, je vais remplacer ça par des petites boules. Toutes petites. Finalement, pour les faire disparaître, elles vont pour du beurre. Mais c'est pour l'instant, c'est pour vous les faire voir encore. Vous voyez ? Ça, ça part comme ça, et ça vient ici, autour de la triskel qui est là. Et ça ici et ça là, c'est pareil. J'ai défait la maille. J'ai enlevé les mailles qui sont marquées par des points ici. Bon. Je garde ça pour l'instant de la même manière. Vous voyez ? Tout à l'heure, j'ai défait les trois borroméens, j'ai fait pas mal de dessins. Vous voyez ? Ici, j'ai changé, j'ai mis en continuité quelque chose. Et bien, ça n'empêche pas que ça se décompose. Au lieu d'avoir ici une maille, maintenant ici, cette petite boucle, cette mise en continuité fait que j'ai pu. C'est une maille, remarquez. Hein? Parce que, une maille comme ça, elle n'a pas grand-chose à envier à une maille comme ça. La seule différence entre ce dessin et celui-là, c'est que les deux bouts qui sont libres ici sont mis en continuité là. Et c'est bien une maille. Si cette maille se défait aussi. Vous voyez ? Donc je suis en train de vous montrer les secrets de la cuisine. Mais vous allez voir que ça va être un bon moyen de filtrer les nœuds. Ça veut dire que cette maille et cette maille, ça se défait. Alors quel dessin je vais vous donner ? Je vous donne le dessin suivant. Pour finir, je vais défaire ça. Et puis je vais faire passer ce fil qui est là par au-dessus. Alors, je vais assez vite maintenant. Pof. Bon, ici, je vais vous garder comme ça pour que vous en ayez un souvenir. Bon, voilà. Ici, je passe au-dessus. Ici, je passe au-dessus. Et là, je passe comme ça. Je suis passé au-dessus ici. Là, je passe au-dessus. Il se trouve que ceci va venir ici.
Non, je suis en train de me bourrer. Je recommence. Il ne faut pas hésiter. Alors, regardez, j'ai ça ici, ça là, ça, voilà. Ici, j'ai quelque chose qui est comme ça et que je fais passer au-dessus. Eh bien, j'ai plus qu'un seul croisement à ajouter. Ah ouais, c'est parce que maintenant j'en ai trois au-dessus, alors que là j'en ai deux au-dessus et deux en dessous. J'en ai un seul en dessous, celui-là, qui vient se raccorder à celui qui est le deuxième. Celui-là vient là et remonte au-dessus. Voilà. Là, j'ai bien dessiné. J'ai défait la boucle qui était là, les deux boucles qui étaient sur cette partie-là. Et le fil qui est passé en dessous, je l'ai fait passer au-dessus. Et bien, cette maille-là, elle se défait, ce qui fait que j'arrive à un truc comme ça. Voilà. J'arrive à un truc comme ça. Et ça, ça se déroule pour faire un rond. Bon. Ben ça, c'est la raison que je donne pour dire que le nœud trèfle, c'est le même nœud que le nœud borroméen. Ça veut dire que je suis en train de nier, je suis en train de faire disparaître, je suis en train d'effacer la différence que Lacan va introduire dans le séminaire Le Symptôme, pour nous dire qu'au contraire, le nœud borroméen, c'est la structure de la métaphore paternelle. Bon, on verra à quel titre il va revenir là-dessus à propos de la métaphore impropre. Mais il distingue de ce nœud borroméen fait de trois ronds, le nœud propre. C'est-à-dire le nœud trèfle, le nœud qu'il appelle nœud à trois, en disant que ça, c'est la psychose paranoïaque. Donc, pour pouvoir étudier l'opposition qu'il y a entre le nœud trèfle réputé maintenant écrire la psychose paranoïaque, c'est-à-dire la personnalité, et la chaîne à trois qui écrit ou qui tente d'écrire, ce qui y réussira beaucoup mieux, c'est le mouvement nœud. La structure de la fonction paternelle, celle du miroir, c'est-à-dire d'un élément exceptionnel qui joue un rôle exceptionnel mais qui est quelconque, c'est en niant cette différence. C'est en l'annulant par une relation d'équivalence qui s'appelle homologie que nous pourrons rentrer dans l'étude justement de ce qu'on peut appeler avec Lacan traitement possible de la chose psy. C'est-à-dire, la question préliminaire au traitement possible des choses psy, c'est les propos sur la causalité psychique, c'est la différence entre folie et causalité psychique. Ça, c'est déjà fondamental. C'est la question préliminaire. Heidegger le dit aussi que c'est les questions préliminaires, les questions préalables, c'est les questions auxquelles on ne répond jamais. Hein? Mais c'est un fait que cette question préalable, elle est grave, puisque c'est l'enjeu des entretiens préliminaires, qui portent bien leur nom. Savoir dans quelle mesure le sujet s'engage dans son analyse. Ça, c'est crucial. Sinon, on tombe sur la réaction thérapeutique négative, le surmonte. La spirale et l'univers morbide de la faute. C'est la clinique de la délinquance. Tandis que, ensuite, si on arrive à rentrer à prendre une décision concernant cette question préalable qui est celle de distinguer la folie de la psychose, le traitement de la psychose, il nécessite, c'est pour ça que, vous voyez, il y a du boulot. Il nécessite d'abord de voir en quoi on peut se passer de cette différence pour pouvoir construire un discours qui permet de l'étudier comme différence et de recomposer la partie abolie du discours qui est détruite par la forclusion, c'est-à-dire... Comment apprendre à lire pour un sujet qui ne sait pas lire entre les lignes, qui n'entend pas qu'il y ait de la signification, comment faire pour qu'il reconquiert
cette partie abolie du discours qui s'appelle nom du Père, qui s'appelle signifiance, qui s'appelle intelligence, qui s'appelle lisibilité. Et donc c'est contre ça, aucune technique ne fera jamais l'affaire, vous voyez, c'est pas une question de technique, même si mes dessins peuvent paraître relevés d'une certaine technique. Les techniques d'écriture, moi je tiens que toute technique dans le discours, dans le langage, est une étaffée d'écriture, est liée à l'écriture, mais c'est bien en mettant l'accent sur le côté, sur l'aspect justement non représentable, non technique de ce qu'il y a dans n'importe quelle technique. Hein? C'est ce qui fait quand même la différence qui est sensible entre les techniques néolithiques et les techniques industrielles. Les techniques industrielles, elles ont une plus grande puissance de conviction parce qu'on peut être encore plus paresseux, on peut ne pas les... Voilà. Moins vous en savez, mieux vous pouvez conduire une bagnole. C'est le succès de l'industrie. Ford, comme dit Kojève, Dieu, Marx est un dieu, mais Ford est son prophète. Taylor aussi. Plus vous êtes con, plus vous allez avoir des gadgets. Regardez les droites infinies qui se promènent dans la rue, dans le métro. Ils ont tous des trucs qui leur traversent les oreilles. Le traumatisme des parents. Vous voyez ? Téléphone cellulaire ou iPod. Donc plus vous savez moins, plus ça marche, les techniques industrielles. Alors que les techniques néolithiques, alors oui, bon, on vous dit qu'il fallait un maître, il faut une initiation. Bon, ça, c'est fini. Ce qu'il faut, c'est de s'apercevoir que lire, écrire, parler, on ne sait pas comment ça s'apprend, on ne sait pas comment ça se fait, on n'en parle pas bien, et on peut commencer à se poser la question de devenir amateur de ces choses qui ont tendance à être abolies par la machine, mais qui n'existent pas chez l'animal. Chez l'animal, ça ne dépasse pas le chien de Pavlov. C'est-à-dire la névrose. Il va pisser sur le tapis de votre grand-père que vous voulez absolument préserver. Parce que vous arrivez à le lui suggérer. Les chiens, comme les enfants, sont extrêmement obéissants. Voilà. Je vous dis au mois de juin, on reprendra au collège, si vous le voulez. D'accord ? Il y a 4 leçons au collège. Ceux que ça intéresse, j'ai trouvé la référence de Marx, du symptôme chez Marx, c'est donné par Walter Benjamin dans le très beau texte qui s'appelle Paris, capitale du 19e siècle. Vous pouvez noter ça avant de partir, si ça vous intéresse. Il en fait grand cas, le changement de moyens de production. Et il nous signale que c'est dans Karl Marx, le Capital, chapitre 15, traduction de Joseph Roy. Dans les œuvres Économie 1, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1965, page 927. Il y a marqué note A. Bon, c'est là que Walter Benjamin l'a repéré. Le symptôme, la différence entre le symptôme et le symptôme. Voilà. Alors à bientôt. Thank you.